France Culture, le bon plaisir.
Anna, Karina.
Signe astrologique.
Vierge balance.
Taille.
1m74.
Couleur des yeux.
Plus foncé, je crois.
Signe particulier.
Je ne sais pas.
Daniel Dobbles, on vient de regarder le film Vivre sa vie et avec Anna Karina. Alors, ce que vous avez perçu de son visage?
Les deux ou trois ou même quatre premiers plans le signalent et l'introduisent d'une façon exemplaire. C'est-à-dire que ce sont trois plans fixes où on voit d'abord Anna Karina de profil. Elle présente son profil gauche, ensuite elle présente son visage de face. Ensuite, il y a un troisième plan où elle présente son profil droit. Et ce qui est déjà très troublant dans cette sorte de tournoiement un peu cardinal autour du visage, c'est qu'il y a une sorte d'ombre centrale qui fait qu'on ne la voit pas, c'est qu'on la devine. Elle est à la fois infiniment présente, mais pas tout à fait non plus dans le champ de la pure vision. Elle n'est pas dans une sorte de clarté, évidemment, flagrante. Elle est entre deux. Il y a évidemment une sorte de fragilité, mais qui n'est pas du tout d'ordre psychologique, c'est une sorte de fragilité d'être. C'est peut-être pas légitime de faire ces trois premiers plans-là. Et c'est peut-être pas tout à fait légitime non plus pour elle-même de se laisser filmer de cette façon-là.
J'aperçus dans une vive lumière une peinture qui m'avait d'abord échappé. C'était le portrait d'une jeune fille déjà mûrissante et presque femme. Je jetai sur la peinture un coup d'œil rapide et je fermais les yeux. C'était un mouvement involontaire pour gagner du temps et pour penser, pour m'assurer que ma vue ne m'avait pas trompé, pour calmer et préparer mon esprit à une contemplation plus froide et plus sûre. Au bout de quelques instants, je regardais de nouveau la peinture fixement.
Jackie Reynald, dans la plupart des films de Jean-Luc Godard où joue Anna Karina, vous avez été sa maquilleuse. Et on a l'impression que dans ces films, Jean-Luc Godard se positionne peut-être comme un peintre vis-à-vis de son modèle.
Vous savez pourquoi? Parce que je pense que peintre, d'abord, il aurait rêvé être tout seul à être le seul à bord et être maître de son œuvre, ce qu'on peut comprendre d'ailleurs. Je comprends qu'on soit jaloux.
Il était jaloux?
Mais je pense que quelqu'un qui est créatif comme ça, il veut tout savoir faire. Fellini touchait à tout, je veux dire, il savait maquiller, il savait tout faire. Les peintres, il était, je pense, jaloux des peintres qui sont seuls sur leur toile, ils travaillent quand ils veulent. De toute façon, on ne tournait pas 8 heures par jour avec Godard. Mais on tournait intensément et intelligemment, si je veux dire. C'est-à-dire qu'ils étaient très préparés, très... C'est pas parce qu'il était 7h30 qu'on coupait, je veux dire. Quand on avait fini, on avait fini.
On est tenu à distance, mais silencieusement. Pas tenu à distance moralement, mais on est tenu à distance parce que... On sent bien que, dès ses premiers plans, ce qui va être en jeu, c'est celle de la question de la violation de cette identité qui n'est pas affirmée en même temps. C'est-à-dire que vivre sa vie, c'est, notamment, évidemment, jusqu'à la fin de ce film, la vivre jusqu'à en mourir, quoi.
Le portrait, je l'ai déjà dit, était celui d'une jeune fille. C'était une simple tête, avec des épaules, le tout dans ce style qu'on appelle en langage technique style de vignette. Beaucoup de la manière de Sully dans ses têtes de prédilection. Les bras, le sein et même les bouts des cheveux rayonnants se fondaient insaisissablement dans l'ombre vague mais profonde qui servait de fond à l'ensemble.
Ah ben quand elle arrive au maquillage, ben c'est... elle arrive, elle sort du lit, etc. Donc on commence à se faire une tête, c'est-à-dire c'est pour ça que j'aime pas du tout quand les gens viennent au maquillage, parce que c'est très, très intime le maquillage.
En fait, si je comprends bien, vous apportez les couleurs que le peintre, en l'occurrence, qui était Godard, voulait.
Oh, vous me flattez beaucoup, là. J'essaie. J'essaie.
Voilà. Et alors, le travail de maquillage, comment ça se...
Ben, le travail de maquillage, surtout avec Jean-Luc Godard, est particulier puisqu'il déteste le maquillage. Mais il y avait un grand travail ici quand même sur Vivre sa vie, en référence avec Louise Brooks.
Oui, on la voit de profil, extrêmement
découpée.
Ah oui,
même pleine face, là, justement, quand elle pleure, c'est magnifique.
Ce sont surtout ses yeux qui sont maquillés.
Les yeux, ah non, la peau aussi est très claire, parce que les gens étaient très clairs, en noir et blanc aussi, donc il faut faire ça très clair. Elle était très pâle, si les lèvres faites, parce qu'Anna adore le rouge à lèvres. moins, mais bon. Mais les yeux étaient très travaillés, mais ça agrandit l'œil, mais c'est son œil, je veux dire, on ne transforme pas, on accentue plus exactement. Et là, c'était facile parce qu'Anna a des yeux immenses, etc. Quoi. C'est-à-dire, elle est très facile à maquiller.
Des yeux
et à transformer aussi, d'ailleurs, bizarrement.
C'est-à-dire...
C'est ça la photogénie des gens, c'est que vous pouvez en faire plusieurs. Parce que dans Pierrot, elle n'est pas pareille que dans Vivre sa vie. Et dans Une femme est une femme, on jouait, c'était comme c'était des références à des comédies musicales, on se permettait des maquillages plus musicaux. Quoi. C'était... Il y avait du bleu, il y avait du... C'était plus coloré.
Comme œuvre d'art, on ne pouvait rien trouver de plus admirable que la peinture elle-même. Mais il se peut bien que ce ne fût ni l'exécution de l'œuvre, ni l'immortelle beauté de la physionomie qui m'impressionna si soudainement et si fortement. Encore moins devais-je croire que mon imagination, sortant d'un demi-sommeil, eût pris la tête pour celle d'une personne vivante.
Elle meurt... On peut penser qu'elle meurt d'une certaine manière au féminin, là où Belmondo meurt au masculin, dans À bout de souffle. Ils meurent tous les deux sur le pavé, par exemple. Mais là où Belmondo est pourchassé, blessé, évidemment, tué par balle, et parce qu'après tout, il a commis un meurtre, Anna Karina meurt en otage. Elle meurt dans un échange crapuleux, enfin... Et finalement, sa vie aura été celle de quelqu'un qui, femme d'un genre spécial, comme elle le dit, c'est magnifique, n'aura été finalement qu'une femme faite pour protéger un corps d'homme criminel, quoi. Alors c'est ça qui, en même temps, fait que cette fragilité d'être et cette interrogation, cette sorte de liberté en même temps étrange qui se donne à elle pour qui suis-je, est-ce que je peux vous regarder, est-ce que ça vous gêne si je vous regarde.
Anna, elle a un visage parfait parce qu'il y a tous les angles qu'il faut, c'est-à-dire les pommettes, l'écartement des yeux, la bouche très dessinée, très, je veux dire, parce que le maquillage, qu'est-ce qu'il fait le maquillage, il fait ressortir la personnalité des gens. Mais nous, dans le cinéma, on doit faire ressortir la personnalité en fonction d'un rôle. Et c'est ça qui est assez passionnant.
J'ai toujours été frappé par ceci, c'est qu'on ne peut pas vivre sans parler.
Pourtant, ça serait agréable de vivre sans parler.
Oui, ça serait beau, hein. Ça serait beau, hein. C'est comme si on s'aimerait plus. Seulement, c'est pas possible. On n'y est jamais arrivé.
Mais pourquoi? Les mots devraient exprimer exactement ce qu'on veut dire. Est-ce qu'ils nous trahissent?
C'est la question qu'elle pose à Brice Parrain. On sent que elle a une tête admirable, mais que cette tête n'a pas encore de visage, quoi. Et que tout le film est composé de telle sorte... construite de telle sorte, séquences sont faites de telle sorte que, à quelles conditions pourrait-elle avoir enfin un visage, quoi, et nous apparaître non pas comme un plan, comme non pas même sous un effet de lumière, non pas sous un effet d'angle, mais dans une sorte de nudité de visage. Je crois qu'il n'y a qu'un seul moment où elle l'a vraiment, mais après toute une série de situations où elle est sur le point de perdre ses propres traits, notamment la scène extraordinaire où elle se refuse au baiser. Il y a une sorte de moment d'affolement, le client, donc, puisqu'elle fait des passes, essaye de l'embrasser. Elle tourne la tête dans tous les sens et elle finit par l'agiter de telle sorte que ça devient comme une sorte de, de jeu de poupée, quoi. Enfin, sa tête est affolée au sens littéral. Et c'est peut-être après ce refus qu'ensuite, pour la première fois, son visage est marqué par une grimace. Dans la rue, elle rencontre une autre prostituée dans la scène suivante. Et là, tout d'un coup, le visage est défait pour la première fois. Enfin, disons, sa tête est défaite. On sent bien que ce visage n'a pas encore inondé tout le corps.
C'est notre histoire. Un peintre qui fait le portrait de sa femme. Tu veux que je continue ?
Oui.
Et je crois que la séquence, l'une des plus révélatrices, c'est quand elle est au cinéma et qu'elle voit la Jeanne d'Arc de Dreyer, quoi. Parce que là, évidemment, elle voit sur l'écran un vrai visage. Visage qui sera, lui, inoubliable parce qu'il est presque débordant, quoi. Il est incadrable, il est dans l'angle de la vie du visage. On a la sensation, par exemple, que Godard est hanté par l'idée, et c'est toute la problématique qu'il développe même implicitement sur la question du portrait. Il voudrait trouver l'angle qui serait un angle réellement vivant pour filmer Anna Karina. Pas l'angle mort, vous voyez, pas l'angle qui tuerait celle qu'il filme, quoi. Alors il tourne autour, il essaye réellement de détacher cette tête dont il est probablement éperdument amoureux, quoi. Il essaie de la distinguer. Alors, il y a des séries comme ça de plans, et notamment une séquence magnifique où on a la tête du macro qui couvre complètement la tête d'Anna Karina. Donc les deux têtes, ce tête-à-tête, fait qu'il n'y a plus rien d'autre que ça, quoi. Il y a pas... Et le léger déplacement fait que tout d'un coup, quand même, elle se détache de sa tête pour essayer d'avoir un visage, voyez, pour qu'on la voie pour ce qu'elle est, quoi.
Et là, il l'a dirigé comment, alors ?
Ah ben, il se parlait beaucoup. Mais c'est vrai, il y avait une connaissance des deux qui était assez étonnante, quoi. Je sais pas pourquoi, je trouve que c'est un hymne à l'amour pour une femme. C'est un portrait de femme extraordinaire, je trouve, vivre sa vie. Et d'Anna.
Mais elle n'a pas encore ce corps. Elle est en quête de ce qu'elle voit sur l'écran quand elle voit Jeanne d'Arc. C'est-à-dire un visage qui suspend jusqu'à l'interrogation même qu'Artaud porte à ce visage dans la séquence du film de Dreyer. Ils sont tous les deux au bord de quelque chose qui va envahir totalement l'espace et qui est la nudité même du visage de la Falconetti. Donc, d'ailleurs, je crois que comme actrice, elle ne se remettra pas. Et c'est ce qui, et c'est cette sorte de bordure-là, enfin, c'est ça qui fait pleurer à Nana.
Moi, je crois qu'on est toujours responsable de ce qu'on fait. Et libre. Je lève la main, je suis responsable. Je tourne la tête à droite, je suis responsable. Je suis malheureuse, je suis responsable. Je fume une cigarette, je suis responsable. Je ferme les yeux, je suis responsable. J'oublie que je suis responsable. Mais je le suis. Après tout, tout est beau. Il n'y a qu'à s'intéresser aux choses et les trouver belles. Si, après tout, les choses sont comme elles sont, rien d'autre. Un visage, c'est un visage. Des assiettes sont des assiettes. Les hommes sont des hommes. Et la vie, c'est la vie.
Ils ont vu qu'ils s'en allèrent.
Il ne demandait que du feu. Il se contentait de si peu. Ils avaient si peu de
là, évidemment, c'est une sorte de chuchotement.
J'entends leur voix. J'entends leurs pas, j'entends leurs voix qui disent des choses banales. Comme on en lit sur le journal, comme on en dit le soir chez soi. Ce qu'on fait de vous, hommes, femmes, aux pierres tendres tout usées, et vos apparences brisées, vous regardez m'arrache l'âme. Les choses vont comme elles vont.
C'est sûrement ce qu'avait recherché Godard, c'est-à-dire que. Et qui avait peut-être. Qu'il avait frappé sûrement, c'est qu'elle avait une voix cinématographique avec cet accent particulier. J'arrive pas tellement à voir de précédent. En France, il y avait peut-être dans un film, dans La Talente de Vigo, il y avait une actrice qui s'appelait Dita Parlo qui avait un léger accent qui était d'origine allemande, qui avait une voix particulière. Et là, c'était très cinématographique aussi. Rien qu'en entendant la bonne bande-son de film avec ses voix comme celle d'Anna ou celle d'autres, la magie du cinéma. Transparaît. Parce que ce sont des voix qui se détachent pas de la pellicule cinématographique.
Oh, je suis bien votre semblable.
Je sais pas exactement ce qu'on peut en dire. Ce qui est sûr, c'est que quand elle chante, elle interprète. Que quand elle interprète, elle chante pas comme une chanteuse. Elle a des émotions d'actrice. Elle joue des rôles. Elle joue des moments. Elle joue des atmosphères. Et qu'on retrouve cette extraordinaire capacité à avoir des ruptures de ton.
Jamais tu m'as promis de m'adorer toute. Jamais nous n'avons échangé de tels serments, me connaissant, te connaissant. Jamais nous n'aurions cru être à jamais pris par l'amour, nous qui étions si inconstants. Pourtant tout doucement, sans qu'entre nous rien soit dit, petit à petit. Les sentiments se sont glissés entre nos corps qui se plaisaient à se mêler. Et puis des mots d'amour sont venus sur nos lèvres nues, petit à petit. Des tas de mots d'amour se sont mêlés tout doucement.
Dans Pierrot le Fou, par exemple, quand elle disait « Qu'est-ce que je peux faire, je sais pas quoi », avec cet accent très particulier, je l'associais avec une voix très parisienne qui n'avait plus aucun... à Arletty dans l'Hôtel du Nord qui disait atmosphère, c'est des espèces de voix de cinéma qu'on entend, même quand on n'a pas le film devant soi, on les entend dans l'air comme ça, enfin. C'est des voix qui nous accompagnent un peu comme des chansons, et ça c'est la magie des voix de cinéma, à mon avis, dont Anna est un des exemples les plus forts.
Pourtant, tout doucement, sans qu'entre nous rien ne soit dit, petit à petit. Nos sentiments nous ont liés bien malgré nous, sans y penser à tout jamais. Des sentiments plus forts que tout le monde a reconnu et inconnu. Des sentiments si fous et si violents, des sentiments auxquels avant nous n'aurions jamais cru. Jamais ne me promets de m'adorer toute la vie. N'échangeons surtout pas de tels serments, me connaissant, te connaissant. Gardons le sentiment que notre amour est un amour, que notre amour est un amour sans lendemain.
De toute façon, on le saura quand on sera mort, à 60 ans, si on sait toujours aimer.
Elle chante toujours beaucoup quand elle est dans une maison et elle sifflote des airs de films connus. Alors donc c'est assez amusant parce que souvent, quand on la regarde au début, on a l'impression des fois de voir des bouts de films en même temps qu'il est en train de faire la popote ou de faire autre chose, de mettre des bougies, des tissus au mur ou d'aller mettre des tableaux. Et c'est vrai que je crois que depuis toute petite fille, elle a passé son temps à vouloir... Jouer, chanter, elle a connu tous les musicals par cœur, elle connaissait des chansons de jazz par cœur, et c'était sa grande passion, c'était comme ça qu'elle s'évadait dans un monde imaginaire. Et que donc, il y a eu comme un prolongement de son enfance dans le fait qu'elle était actrice.
J'ai découvert le film à la télévision comme tout le monde, qui s'appelle Anna, qui est un musical. C'est qu'il y a, je crois, quelque chose de très marquant et très révélateur, c'est qu'il y a eu Gainsbourg avant Anna et Gainsbourg après Anna. Et on peut dire qu'Anna est une espèce de grande lettre d'amour de Gainsbourg pour Anna. Et que quelque part, quand Anna est sur une espèce de... avec Godard, une espèce de montée fulgurante qui tout à coup vers une rupture inévitable, et qu'elle sort de son chapeau Gainsbourg, qu'elle lui dit « Je crois en ce mec, je veux bien le suivre dans son délire, je veux bien faire ce musical avec lui, ce n'est pas rien », parce qu'elle a été faire ça dans une télévision, avec Coralnik, qui s'est très bien débrouillé d'ailleurs comme metteur en scène, et ils ont fait ça avec un metteur en scène suisse, très peu d'argent, juste pour le plaisir.
Très beau café, hein. Et c'est un café où a été tournée la scène pivot qui pour moi est une scène culte du cinéma français, c'est-à-dire la fameuse scène du Madison dans Bande à part, avec bien sûr Anna Karina et puis Samy Frey et Claude Brasseur. Alors dans ce café il y a cette scène où les gens pensent mais ne se parlent pas, ou du moins s'ils se parlent, ils ne disent rien. Qui puisse faire avancer l'histoire, mais où il se passe plein de choses qui font avancer les sentiments, ce qui est très important dans le récit proprement d'apart. Et puis le personnage qu'elle représente dans mon appart est assez unique quand même dans l'histoire de la première filmographie de Godard, c'est-à-dire elle est tout sauf une star, tout sauf un personnage. Et si elle pouvait incarner un quelconque personnage, ce serait un peu la lycéenne ou l'étudiante. Bon, moi, j'ai vu ce film quand j'avais 18 ans, je crois. Donc, ça avait eu un effet absolument bœuf sur moi. Et je me souviens de sa jupe à carreaux, des bas noirs ou des collants noirs, on ne sait pas trop. Parce que ce qui est aussi extraordinaire avec Anna, c'est la pudeur extraordinaire de cette actrice par rapport aux autres, disons. Un accent lointain, comme ça, qui permet de dire à Anna cette phrase célèbre. Est-ce que je mets le pyjama ou la chemise de la nuit, qui est une phrase qui pour nous a été toujours teintée d'un érotisme torride. Dans Mode à part, pendant le cours d'anglais, alors qu'elle fait très jeune fille sage, Claude Brasseur, elle lui écrit sur un papier « To be or not to be contre votre poitrine, that is the question ». Alors nous, on était complètement sciés et renversés sur le siège. Il osait parler de sa poitrine. Pour nous, c'était un truc totalement dément. C'était d'un torride total.
En fait, on la voit très peu nue.
Moi, j'ai jamais vu.
Jamais.
J'ai jamais vu dans un film dénudée, jamais. Il y a une scène où on la voit dans un lit avec Claude Brasseur, je crois. On les voit tous les deux sous la couverture, endormis. C'est une scène qui nous faisait atrocement mal, parce que c'est une scène qu'on ne pouvait pas imaginer Anna Karina avec quelqu'un d'autre qu'avec le spectateur. Ça, c'était quelque chose d'assez incroyable. Et c'est Claude Brasseur Du coup, j'ai jamais aimé Claude Brasseur, moi. C'est à cause de ça, je pense. Je réfléchis, quoi. Cette qualité comme ça de présence un peu dans les films incroyable parce que c'est incroyable parce que bon elle parle pas bien français elle est au début elle c'est pas une actrice de théâtre en père qui est capable de faire sentiment elle est elle joue toujours à peu près le même rôle mais elle est incroyable parce que d'un coup elle traverse un écran et Brigitte Bardot elle peut s'accrocher quoi vraiment très très loin quoi.
Qu'est-ce qu'il y a?
Tu ne m'aimes pas.
Écoutez cet imbécile! Écoutez cette idiote! Je n'aime que toi!
Mais ça va pas, non, ça va pas.
Je n'aime que toi! Tes yeux, ton cou, tes épaules, la taille.
Ah oui. Tes pieds?
Je n'aime que toi! Je n'aime que toi!
La balle arrive, Di Stefano, contrôle la balle.
Oh. Eduardo Manet, finalement, c'est à travers la manière dont Jean-Luc Godard filmait Anna Karina, la photographiait presque, qu'il a su révéler chez elle une certaine sensualité, presque un érotisme.
Jean-Luc Godard, et qu'il trouvait cette femme extraordinaire, cette fille extraordinaire, pleine de vie, des sincérités, des tout. Il n'avait qu'à planter la caméra et laisser Anna parler et bouger, ce qu'il a fait d'ailleurs. C'est l'intelligence de Godard de l'avoir laissé faire ça. Voilà. Et ne pas vouloir qu'Anna joue à la manière des, etc. Le moment de la rencontre Karina-Godard, c'était une rencontre mystérieuse, belle et maintenant mythique. Il était amoureux d'elle, il la voyait à travers l'appareil, il l'a laissé vivre, c'est ça qui est important. Quand on regarde vivre sa vie, pour parler de vivre sa vie, que la caméra se balade d'un côté à l'autre, mais c'est une merveille, c'est un rêve.
Il vous dirige sans vous diriger. Alors qu'il y a beaucoup de metteurs en scène qui disent « Bon, mais toi, tu fais ça, tu regardes dans la glace et tu fais trois pas, et après tu fais ceci, tu fais cela, ou ils font des trucs différents, ou ils disent quelque chose, ou disent maintenant, tu fais ça. » Lui, c'était par rapport à... Il y avait comme une espèce de ballet. Et puis, il le faisait avec les acteurs, une mise en place. Pour les plans séquences, par exemple... parfois très difficile. Vous n'avez tout le temps pour répéter avec la caméra. Et c'était toujours très naturel. Bon, il avait aussi, bien sûr, le talent d'écrire un texte, un dialogue très, très naturel, parce que, selon moi, c'est un des plus grands dialoguistes qui existent, hein, parce que c'est tellement naturel que les gens croyaient qu'on improvise quoi, sur place, qu'il est complètement faux. Ça, ces dialogues, il l'écrivait vraiment. Il l'écrivait au dernier moment. Ça, c'est vrai. On l'avait pas d'avance. On n'avait même pas de scénario, la plupart du temps. Jamais. Et de toute façon, s'il y avait un scénario, c'était jamais le scénario qui était tourné. Donc, c'était comme s'il n'y en avait pas. Et donc, il avait ce fantastique talent. À l'époque, peut-être qu'il l'a toujours, mais comme je n'ai pas tourné avec lui depuis des siècles, je ne sais pas, il avait ce fantastique talent de nous diriger sans nous diriger et de nous faire comprendre ce qu'on tournait sans qu'on sache vraiment ce qu'il allait écrire. Comment expliquer ça? Je sais pas. C'est clair ou c'est pas clair? Sinon, il faut que je recommence. C'est pas... C'est absolument insensé.
Mais alors, Eduardo Manet, son jeu d'actrice, il se situe au niveau du comportement plus que de la psychologie?
C'est plutôt l'actrice d'intuition, d'intelligence directe, et en même temps, je pense qu'elle peut faire un travail aussi délicat et aussi d'interprétation comme elle l'a fait, ne l'oublions pas, pour la religieuse, qui était tout à fait en dehors de ce qu'elle avait fait avec Godard, hein, qui était la la prise de vue et la prise de vie.
On ne comprend jamais. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire? Je ne sais pas quoi faire.
Dans les films, souvent, il y a une petite phrase qui vient, parce qu'il y a plein de petites phrases comme ça qui nous restent en mémoire. Alors, il y a souvent, je ne sais pas.
Mais dans la vie, c'est souvent, on le dit, je ne sais pas. Ou qu'est-ce que je peux faire, comme ton Pierrot le fou, qu'est-ce que je peux faire, je ne sais pas quoi faire. Quel est le gosse qui n'a pas dit ça dans sa vie, une fois au moins?
Et à l'époque, vous aviez conscience que ce que vous apportiez, c'était quelque chose quand même de très nouveau par rapport à ce jeu de...
Écoutez, nous, je peux pas parler pour tout le monde, mais en tous les cas, je pense, quand je dis nous, je veux dire, je pense qu'on n'était pas, on se prenait pas pour des stars, on n'avait pas besoin de ceci, pas besoin de cela, on était heureux de tourner, de faire des choses, de jouer, de... Et puis... Bon, c'était pas grave s'il fallait se déshabiller ou vite changer de costume dans une porte cochère ou des trucs comme ça, c'était pas grave. Mais on avait, dans les années 60, tellement envie de vivre, tellement envie de rigoler, tellement envie de chanter, de s'amuser, de s'éclater, quoi.
Et oui, parce qu'on a vraiment l'impression que c'est vraiment des... Vous étiez des copains, quoi.
Oui, on riait, on se faisait des blagues.
Mais alors, parce qu'il y avait
Belmondo. On enfermait des gens dans le placard, enfin, on faisait des trucs pas possibles. Des trucs idiots, mais des trucs drôles en même temps. Bon, parfois, c'était un peu moins gai, c'est sûr, parce que, par exemple, l'histoire de pendant Pierrot le Fou, on avait fait un truc pas possible. Je ne sais plus qui a eu l'idée, hein, parce que bon, on ne sait plus si c'est Marielle ou Jean-Paul, ou si c'est moi, ou si c'est quelqu'un d'autre. On dit, on va faire une blague à Jean-Luc Godard. On va te maquiller avec un œil au beurre noir. On va faire croire que tu as un œil au beurre noir. Et ça va le faire rire. Évidemment, on était comme des gosses.
Et ça puis,
attendez. Alors évidemment, je passe au maquillage. La maquilleuse trouve ça génial aussi, Jackie Reynal. Elle trouve ça génial. Elle dit, je sais comment il faut faire. Il faut mettre une pêche autour de l'œil, la peau d'une pêche, comme ça. Juste la peau, et ça fait vraiment naturel. Et elle a raison, parce que il n'y a pas mieux. Ça fait vraiment comme si on avait reçu un coup de poing dans la figure. Et donc, l'œil au beurre noir, et puis tu dis, je te maquille en dessous, comme pour la scène, on colle cette peau de pêche, tu mets tes lunettes, et voilà. Alors, on y va sur la plage, et puis Jean-Luc dit, on répète, bon, c'est très tôt le matin, il y a quand même un peu de soleil, et Jean-Luc dit, au bout d'un moment, maintenant, Anna, enlève tes lunettes soleil, là, enlève les lunettes. Sinon, je préfère tourner avec, je commence à jouer le truc, quoi. Il dit, ah non, mais t'as raconté pas, t'es quand même folle, je te dis, t'enlever les lunettes de soleil. Enlève-les. Alors je dis, mais non, mais je peux pas, de toute façon j'ai mal aux yeux, je pleure ce matin, le soleil, tout ça. Il dit, enlève ces lunettes. Il me les arrache et il voit le coca. Il dit, il se met à hurler. Mon fils, il dit, bah, ma pauvre chérie. Mon fils, il se prend la tête et tout. Et je le vois vraiment en larmes, vraiment me bouleverser à un point. Il dit, mais qui t'a fait ça? Il dit quand même au bout de 3 minutes. Alors, au lieu d'arrêter tout de suite, comme une conne, je continue, je dis, c'est Jean-Paul. Parce que tout ça, on l'avait répété avant. Alors, Jean-Paul, il joue le jeu aussi. Tout le monde autour joue le jeu. Quoi? Je fais Jean-Luc, quoi? Alors là, je comprends qu'il est, au bord de s'évanouir d'horreur, tu vois. Alors j'arrache le truc, j'ai dit, mais c'est pas vrai. Mais là, il est ridiculisé. Alors il est fâché. Alors il nous a punis après, oh là là.
J'ai une toute petite...
de chance. Moi j'ai une petite ligne de chance. Un petit peu de chance. Ça me fait peur du lendemain. Ma ligne de chance, ma ligne de chance. Dis-moi chérie, qu'est-ce que t'en penses?
Oh, ce que j'en pense, quelle importance. C'est fou ce que j'aime ta ligne de hanche. Ta ligne de hanche.
Ma ligne de chance.
C'est une fleur dans mon jardin.
Jean-Bernard Pouy.
Carole Fou, c'est un film que j'aime et que j'aime pas, parce que bon, pour nous, on sait très bien que c'est le film de la séparation avec Godard, et pour nous, c'était terrible que qu'Anna Karenina puisse ne plus aimer Godard et vice-versa. On s'est toujours dit que ça pouvait être fini pour elle. Alors, heureusement, bien sûr que non. Mais sinon, personnellement, j'ai vu beaucoup de films avec elle et je ne l'ai pas retrouvé jamais retrouvé de la même façon.
Avec Godard, il y avait une sorte de liberté très grande, d'idéal, en fait.
Il y avait une histoire, ouais. Quelque chose qui était totalement en adéquation avec la folie qu'on aurait aimé peut-être avoir à l'époque et qu'on n'avait pas. Ou les considérations, l'esthétique, la révolte, la provocation... Et elle était accompagnatrice de ça, même si elle n'était pas toujours porteuse de ça. C'était, tel que Godard la voyait, je pense, c'était la fille qui vous suivait dans vos délires, un peu, bon, qui suivait l'homme dans ses délires. Alors, c'est vrai qu'il y avait un petit côté comme ça, un peu macho et ça. Elle est toujours un peu en deçà, hein, bien que c'est elle qui amène le drame, ça. Parce que Godard, je pense, prenait beaucoup de ses récits au départ dans les séries noires de l'époque. Et les séries noires de l'époque, c'est vrai que c'est à cause de l'apparition de la femme que les deux hommes se battent et l'un meurt, que Pierrot le Fou disparaît, enfin bref, tout ça.
Est-ce que c'est une égérie?
Je sais pas. Je sais pas si on aurait fait une manif avec des pancartes avec la photo d'Anna Karenina dessus. Je crois pas. Je crois pas que c'est une égérie. Parce que elle aurait pu l'être avec Pierrot le Fou. Parce que, bon, bon an, mal an, Pierrot le Fou, c'est Bonnie and Clyde qui ne serait pas imbécile, quoi. Mais elle ne l'est pas parce que dans Pierrot le Fou, elle est la faute. Elle est celle qui quitte. Elle est celle qui ne comprend pas le romantisme du personnage, qui ne comprend pas sa rébellion. Donc, comme elle est un peu traitée en faute, même si elle est comme ça... Seul film où elle est vraiment totalement solaire, bronzée, un peu comme ça, en petit maillot, en petite robe rouge, la maillot. Bon. Elle est. C'est pas. Non, c'est pas une égérie. C'est-à-dire, elle représente pas de. On pourrait pas lui mettre un slogan dessus. On pourrait pas. Elle est quoi. Elle est là. Elle est une accompagnatrice un peu. Et je serais comme Veillargans. Il y avait un livre de Veillargans que j'aimais beaucoup. Il disait c'est moi qui ai fait les films de Godard. C'est pour lui, c'est moi. Jusqu'à Pierrot le Fou, parce qu'il s'arrêtait. Pour Anna Karenina, je serais tenté de dire c'est moi qui l'aimais, pas lui.
Un jour d'été, il avait l'air d'un petit lutin. Regard perdu sur la jetée, il pensait sans doute à la mort sur le vieux port. J'ai pas compris ce qui m'a pris. J'ai pris sa main, on est parti très loin.
Daniel Doubles.
Elle a représenté, alors là, magnifiquement, et. Alors, pas simplement pour une génération, pour toutes les générations à venir. C'est-à-dire, je le vois encore aujourd'hui, des jeunes femmes qui ont 30 ans, par exemple, qui sont tout à fait secrètement, d'ailleurs, sans aucune idolâtrie de quelque nature que ce soit, où elles sont dans la vérité de ce que Anna Karenina a fait jouer dans les années 60. Moi, je crois que c'est ça. C'est-à-dire que c'est « je suis jolie, je me trouve jolie, ça me suffit pas, vous le savez bien, mais je ne sais pas comment me poser la question. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois regarder les autres? Est-ce que je dois me laisser regarder? Est-ce que je dois être pure ou impure, sainte ou prostituée, ni l'une ni l'autre, encore autre chose? Je veux être autre chose. » La question revient encore aussi. « Je veux être autre. » Alors je tourne autour, je mets un disque et puis je danse sous le regard de deux hommes qui comprennent rien, enfin, qui sont eux-mêmes encore dans la bêtise de l'enfance. C'est peut-être là où probablement elle signe alors quelque chose de l'arrêt de ce temps, quoi, ou l'arrêt du temps dans cette dernière partie du siècle. C'est elle peut être folle, elle peut devenir folle, mais elle ne peut pas exploser. Et dans le fond, là, en l'évoquant, Pierrot le fou, c'est ça. Il se fait sauter à la dynamite, oui, bien sûr. Lui, il a ce recours-là. Elle n'a pas ce recours-là.
Pistolet, Joe ne tord que d'un œil, l'autre reste toujours ouvert. Pistolet, Joe ne tord que d'un œil, celui d'à côté et d'envers. Oh, oh, oh. Pistolet, Joe. Oh, 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 oh. Pistolet, Joe. Tu m'as tapé dans l'œil, mais un jour il m'a trompé. Pistolet, tu ne l'as pas volé, la balle qui t'a épargné. Oh, oh, oh. Pistolet, tiens. Oh, 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 oh. Pistolet, tiens.